Bonsoir à toutes et à tous, voici la énième webconf du grand et magnifique Laurent Duro. Bien, alors une question de Nelson sur le véhicule de transport. Au sujet de la grille cristalline et des modes de transport, devrais-je être en possession d'une Merkiva, Merkava, Merkana, ou je me mélange aux énergies de conscience des étapes de la métamorphose évolutive? Bien, alors, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je comprends le mot métamorphose, évolutive, je comprends. Mais bon, je ne sais pas du tout à quoi ça réfère. En tout cas, les trois autres noms, bah, ça correspond ni plus ni moins aux trois véhicules que sont le double tétraèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Alors, comme vous savez, j'aime pas trop utiliser les gros mots, hein, c'est-à-dire des mots qu'on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, mais ça viendra dans le temps, comme on dit, avec les personnes. Alors, concernant les modes de transport, il faut savoir que nous avons et il existe beaucoup de modes de transport concernant les entités, hein, puisqu'il existe effectivement la grille cristalline, ça je crois que vous avez compris, et nous pouvons voyager effectivement sur la grille cristalline. Alors, il y a par exemple un mode de transport qui est complètement indépendant de votre véhicule. En effet, si vous êtes copain avec votre esprit cristallin, eh bien, vous pouvez, comment dire, vous pouvez, quand vous êtes au niveau d'activation 3, eh bien, vous accédez à la salle de commande de votre esprit cristallin. Et donc, cet esprit cristallin peut à son tour profiter, vous faire profiter de se balader sur la grille cristalline. Et donc, il va utiliser la grille cristalline, mais il peut vous emmener où il veut. Hein. Dit autrement, eh bien, vous rentrez dans la salle de commande, et c'est l'esprit cristallin qui va décider de vous emmener. Alors, bien sûr, il ne va pas vous emmener avec votre corps physique, avec vos molécules, avec la flotte, les nonos et compagnie. Il va tout simplement prendre la partie éthérique de vous, et donc votre conscience d'une certaine manière. Et vous allez monter sur son dos, hein. C'est-à-dire c'est comme s'il avait un sac à dos, vous montez dedans et à partir de ce moment-là, vous partez en balade. Donc si vous voulez aller par exemple aller visiter un vaisseau de la flotte galactique, eh bien c'est possible, vous lui dites quel vaisseau et avec qui vous voulez voir, et donc à ce moment-là, ben, il vous emmène. Et donc vous allez vous retrouver comme si vous étiez dans un rêve éveillé, vous allez vous retrouver en face de la personne que vous désirez rencontrer. Ou vous pouvez par exemple dire voilà, j'aimerais aller sur telle planète, dans telle constellation, et bien si le crâne de cristal a l'autorisation d'y aller, et bien il vous y emmènera. Donc voyez, là il n'y a pas besoin d'avoir un véhicule de lumière, de transport, pas du tout. C'est un des moyens. Ensuite, il existe bien sûr d'autres moyens. Par exemple, on le verra un peu plus tard, tels que la bilocalisation. C'est pas véritablement un moyen de transport, c'est un moyen pour aller voir ailleurs sans pour cela avoir un déplacement, on va dire, de votre corps physique. C'est la même chose. Donc, vous verrez qu'au fil du temps, il existe d'autres méthodes de transport. Et ceci n'a pas on va dire, de relation forcément directe avec vos véhicules de lumière. Prendre possession de vos véhicules de lumière, c'est-à-dire de votre capacité à maîtriser votre corps de manifestation, c'est tout simplement, comme dirait l'autre, avoir la possibilité, effectivement, de faire, par exemple, de la bilocation. Hein? Donc la bilocation n'est pas possible pour certains individus qui sont toujours avec le véhicule de matière du double tétraèdre imbriqué l'un dans l'autre. Hein? Ça commence au dodécaèdre. Et je dirais même vers le haut du dodécaèdre, parce que c'est une histoire de dimension. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu. Vous avez par exemple certains êtres qui sont en parfaite maîtrise de leur corps de manifestation. Alors, je ne parle pas d'humains, parce qu'il n'y en a pas qui savent faire ça actuellement. C'est de pouvoir se dissoudre localement pour réapparaître à un autre point. Et donc, c'est quasiment de la téléportation, carrément, hein. Donc c'est sûr que si vous n'êtes pas comment dire, en maîtrise de votre corps de manifestation, c'est sûr que vous allez perdre un bras, ou quand vous allez vous remonter, le bras gauche se retrouvera à droite. Enfin bref, donc il faut avoir une très grande maîtrise. Mais il existe plein de possibilités de transport. Voilà, de toute façon, on abordera encore le sujet un peu plus tard, parce qu'il y a d'autres questions, vous allez voir, on va tourner autour du pot. Alors, une question de bébé. Si j'ai bien compris, un vortail est dans une vallée entre deux collines ou montagnes, avec ou sans grotte, dans un endroit isolé, avec de nombreux dragons comme gardiens. Avec un vortex, une porte, un vortail, peut-il y avoir un gardien EDLN, plus un gardien cristallin, c'est-à-dire un crâne, plus un gardien humain, et pourquoi? Alors, avant de dire toutes les questions, commençons déjà par le début. Effectivement, quand il y a un vortail, ça veut dire qu'il faut deux vortex assez costauds. Or, généralement, les vortails en vallée, il ne va pas y en avoir beaucoup, parce qu'ils n'auront pas la puissance nécessaire, sauf, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Si par exemple il y a des cours d'eau. Les cours d'eau, c'est une fluidité, c'est un cristal liquide. Donc elle conduit, puisque vous savez que l'eau est conductrice, eh bien elle conduit l'énergie. Donc on peut dire qu'à certains endroits, selon certains cours d'eau, eh bien il peut y avoir effectivement des portails. Vous voyez, donc il y a plein de possibilités, parce qu'il y a quand même des coins où, hein, d'abord, il y a beaucoup d'eau, mais il n'y a pas forcément de montagne. Et d'autres coins, bah, il n'y a ni eau ni montagne, hein, comme par exemple les déserts. Donc là, bah, c'est désert, hein, c'est désertique. Voilà, donc il n'y a pas forcément, je ne comprends pas pourquoi il faut avoir une grotte ou avec ou sans grotte, je ne vois pas, et dans un endroit isolé, pas forcément. Hein, disons que le dernier portail que j'ai rencontré, la vallée, il y a des dizaines de milliers de gens qui habitent dans la vallée. Hein, donc... ça n'a pas de... on va dire, l'humain a quand même squatté pas mal d'endroits. Hein, faut quand même le reconnaître. Alors, avec de nombreux dragons comme gardiens. Alors, comment dire, les portails, effectivement, sont gardés par des dragons, hein, obligatoirement. Et selon l'importance du portail, il y aura effectivement un ou plusieurs. Donc nous avons vu jusqu'à maintenant dans notre périple, on va dire l'année dernière, des gardiens de vortex, parce que s'il y a un portail, il y a forcément un vortex qui l'alimente. S'il n'y a pas de vortex, il ne peut pas y avoir de portail. Hein? Il y avait jusqu'à 12 dragons. Hein? Donc 12 dragons sur le même vortex, vous y pouvez imaginer un peu la taille du portail. Hein? Donc c'était bien sûr des vortex qui étaient en montagne. Dans les plaines, il y en a nettement moins. Il faut dire que les plaines sont beaucoup plus squattées, hein, par les humains que les montagnes. Alors, donc, je viens à la deuxième question. Avec un vortex, une porte, un portail, peut-il y avoir un gardien EDLN? Alors, un gardien, être de la nature, garde un vortex, c'est-à-dire fait en sorte que le vortex arrive à fonctionner correctement. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, s'il y a un vortex, il y aura peut-être un portail. Et donc, à ce moment-là, s'il y a un portail, il y aura un dragon. Mais les gardiens cristallins, ça n'existe pas. Enfin, bon, ça n'existe pas. Je n'ai jamais rencontré un vortex ou un portail avec un esprit cristallin quelque part. Non. Hein? On verra que les esprits cristallins, ils ne sont pas là pour ça, et c'est pas la même dimension. Ensuite, un gardien humain. Alors, le gardien humain, c'est aussi un grand mot, hein. Il peut y avoir effectivement des gens qui peuvent rester localement pour amener une certaine énergie et pouvoir être en contact avec les êtres de la nature, mais par définition, sur entre 150 et 200 vortex que j'ai trouvé, je n'ai jamais trouvé un gardien humain. Sinon, il serait pointé quand même, ou l'être de la nature nous l'aurait dit. Donc, il faut savoir que l'humain qui se dit oh, mais moi je suis gardien de tel vortex, non, disons que il peut rentrer en communication avec l'être de la nature qui garde ce vortex, on est d'accord. Les portes dimensionnelles, c'est dans certains cas, on est d'accord, hein, mais ça ne sera pas forcément le même réseau, c'est-à-dire ça sera pas forcément la grille cristalline. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'une grille cristalline, en fait, elle est un ensemble de grilles. Hein, puisque ça, je l'ai dit dans un article, il y a différentes grilles qui sont en résonance avec, on va dire, différents métaux. Donc vous allez avoir une grille pour le cuivre, pour l'or, pour le zinc, pour l'aluminium, pour... Donc il y a plein de grilles. Hein? Donc, donc quand on dit grille cristalline, en fait, c'est comme si c'était un réseau. Un réseau, vous savez, comme un réseau électrique, simplement, il y a certains réseaux, ils sont fabriqués avec du cuivre, puis il y a des réseaux qui sont fabriqués avec de l'aluminium, et puis il y a des réseaux, ils sont pas assez riches, alors ils ont du fer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il n'y a pas un réseau, et il y a en fait des dizaines de réseaux, mais qui sont superposés les uns aux autres en fonction de leur capacité à transmettre certaines informations, et aussi par certains effets de résonance. Donc c'est pour ça que les grilles, les différentes grilles, n'ont pas le même quadrillage. Ensuite, eh bien, il y a aussi, c'est comme un tissu, c'est-à-dire que les grilles ne sont pas forcément tous alignées nord-sud, par exemple. Hein, il peut y en avoir qui peuvent être décalées. Hein, c'est-à-dire qu'on a un angle de différent, parce que c'est comme un tissu que vous brodez, vous avez forcément un fil qui va dans un sens et l'autre qui est perpendiculaire. Sinon, vous ne feriez aucun tissu. Hein, donc il y a comme des trames, mais des trames qui sont différentes, de différentes vibrations, de différentes quadrillages, et on va dire, vu d'en haut, ça ferait du multicolore, hein, vous savez, un peu style tissu écossais, c'est un peu ça qu'il faut regarder. Hein. Donc quand on dit réparer la grille cristalline, c'est en fait réparer une grille qui est la somme de plusieurs autres. Un portail dimensionnel peut-il donner dans un vortail où il ne sert que pour aller hors de la Terre? Et ne sert-il qu'aux Eudéléennes ou des humains pourront-ils jouer un jour y passer? Bon, alors, un portail dimensionnel, c'est pour passer, vous êtes en 4D-5D, vous allez réatterrir en 4D-5D, c'est-à-dire c'est quelque chose d'horizontal, on va dire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une dimension, vous restez dans cette dimension. Hein, donc c'est un petit peu à l'image du réseau de chemin de fer, hein, c'est-à-dire c'est toujours à la surface, point barre. Si par contre, quand vous prenez un vortail ou un portail interdimensionnel, alors à ce moment-là, eh bien, vous n'avez pas affaire à une locomotive et des chemins de fer, vous avez plutôt affaire, on va dire, à des avions, hein, voire des fusées. C'est-à-dire que, par exemple, selon la taille du vortail, eh bien, vous allez avoir la possibilité, si vous êtes par exemple coincé en 5D, 6D, d'aller jeter un coup d'œil, on va dire, à l'étage au-dessus, c'est-à-dire 7D, 8D. Mais si vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien là, vous n'allez pas prendre de petit avion, vous n'allez pas prendre l'avion de ligne régulière, vous allez prendre carrément la fusée. Donc c'est pour ça que tous les portails, on va dire interdimensionnels, vont être taillés en fonction c'est comme un ascenseur. Vous avez un ascenseur qui peut monter sur 5 étages, vous avez des ascenseurs qui se tapent 200 étages. Donc tout dépend, la machinerie sera pas la même, l'ascenseur sera pas le même, même si le principe est identique, ça sera pas du tout la même patate. Donc il y a certains vortails qui sont effectivement étudiés pour, on va dire, nos confrères galactiques, hein, c'est-à-dire nos frères de l'espace, et là c'est sûr que c'est pas un petit truc pour faire passer un individu ou deux, vous savez, comme dans la série je sais plus comment ça s'appelle, Guerre des étoiles ou je sais plus quoi, ça y est, j'ai des pertes de mémoire concernant tout ça, parce que c'est de plus en plus loin, pour moi ça n'existe plus dans mon monde, donc c'est un peu... mais vous comprenez, c'est pas trois pèlerins qui partent avec leur flingue sur l'épaule et qui se disent on va aller à tel endroit. Un portail interdimensionnel fait pour nos frères galactiques est un portail nettement plus costaud pour pouvoir accueillir directement, on va dire, des vaisseaux. Donc c'est quand même de la grosse artillerie, on va dire. Donc qui dit grosse artillerie dit vortail très puissant. Qui dit vortail très puissant dit forcément zone rocheuse, cristalline, hautement cristalline, et donc montagne. Donc c'est pour ça que si vous regardez les plus grands sites sacrés, en règle générale, se situent toujours dans les hauteurs. Parce qu'en plus, bah, ils vont moins loin dans la densité. Hein. Plus ils sont hauts dans le ciel, et moins il faut qu'ils aillent dans la densité. Hein. Voilà. Alors, les humains pourront peut-être un jour y passer. Je vous avouerai que je n'en sais rien du tout, puisque je ne l'ai jamais fait, enfin, de passer par des portails. Mais il est évident que des humains peuvent prendre des portails. Mais ça sera des portails, on va dire, dimensionnels ou interdimensionnels, on va dire des petits ascenseurs. Ça ne sera pas un truc et ils vont se retrouver les fesses en l'air en pleine apesanteur du côté de telle constellation. Non, ils vont effectivement prendre quelques tranches dimensionnelles, mais ça restera toujours des dimensions qui sont proches, on va dire, de celle dans laquelle nous vivons. Alors, une question de Mille concernant la bilocation et le vortail-portail. Quelle différence y a-t-il entre une bilocation et l'utilisation des vortails-portails? Alors, la bilocation est une notion de conscience et n'est pas une notion, on va dire, de transport d'un corps physique. Hein. Donc, il faut comprendre que vous pouvez rester assis derrière l'ordinateur et en même temps voir ce qui se passe à côté du lac pour voir si il fait beau et si vous allez pouvoir sortir. Ou tout simplement si la rivière est encore en crue, et etc. etc. Donc ceci est une chose qui est possible en se mettant dans certains états, on va dire, de conscience. Et j'ai eu l'occasion, il y a déjà au moins... on va dire 10 ans de ça, m'être amusé à voir ce qui se passait. Hein. Donc, par exemple, je me mettais en état de méditation. Alors, je pouvais faire, bien sûr, assis en Bouddha comme tout le monde, ou tout simplement allongé. Hein. Il n'y avait pas besoin. Et je me mettais dans un certain mode de... On va dire, je me mettais dans un état où je me sentais bien, style méditatif. Enfin bon, quand je dis méditatif, je ne sais pas ce que ça veut faire comprendre pour tout le monde, mais enfin, je me mettais dans un état qui me permettait de pouvoir projeter ma conscience, par exemple, auprès du bord de l'eau, où j'avais l'habitude d'aller pour voir si je pouvais y aller ou pas. Hein, puisque, comme c'était une rivière de montagne, vous imaginez que quand il pleuvait ou il y avait des orages, le petit ruisseau se transformait en fleuve. Et donc balayer tout sur le passage. Donc cette petite rivière de montagne pouvait monter, on va dire, de 3 mètres à 4 mètres en une nuit, quoi. Puis redescendre. Donc je voulais savoir. Et le truc qui était intéressant pour savoir si je rêvais ou si je rêvais pas, donc je me projetais à l'endroit où j'avais envie, où je savais que j'allais régulièrement. Donc je revoyais les arbres, je revoyais tout. Donc je m'y mettais et je regardais ce qui se passait. Et un jour, eh bien, en faisant cet exercice, j'ai vu sur l'arbre un sac plastique qui était accroché. Parce que vous savez, il y a beaucoup de déchets et il y a un sac plastique qui s'était accroché dans les branches. Donc j'ai décidé de prendre la voiture et d'y aller voir, c'est-à-dire voir qu'effectivement l'eau avait rebaissé. Et effectivement, quand je suis arrivé exactement à l'endroit, j'ai retrouvé le sac plastique tel que je l'avais vu. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités de pouvoir se déplacer en conscience. Mais c'est une conscience que vous déplacez. Vous ne déplacez pas pour l'instant votre corps physique. Mais c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Hein, nous, ce sera des choses qui seront possibles quand Gaïa aura passé en 5D6D. À ce moment-là, on sera beaucoup plus cristallin puisqu'on aura réintégré notre dodécaèdre. Et donc là, on pourra transporter d'une certaine manière une vibration. Et cette vibration pourra effectivement donner l'illusion effectivement d'être là. Puisque si on pousse le bouchon plus loin, vous pouvez comprendre que tout ce que nous prenons pour une réalité n'est en fait qu'une illusion. Donc vous transportez une illusion quelque part. Mais ce que vous transportez en fait est votre conscience, votre attention. Et c'est pour ça que c'est très fatigant. Quand nous communiquons avec des êtres de lumière qui sont par exemple en train de faire autre chose à côté, nous sentons qu'ils n'ont pas du tout la même patate. Ils n'ont pas du tout la même force quand on est en contact avec eux. C'est comme si, on va dire, leur puissance était diminuée. Donc nous pouvons savoir, quand nous discutons avec un être de lumière, s'il est à 100% avec nous ou s'il est à 50% avec nous. Et donc c'est la question énergie qu'on peut le savoir. Et puis l'autre chose, c'est que même s'ils vous répondent, vous sentez, ça se sent, vous sentez qu'ils sont en train de faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils vous écoutent, mais vous sentez qu'entre les moments d'écoute, entre chaque seconde, eh bien, ils passent des secondes ailleurs. Il y a des micro-coupures Alors, vous avez l'impression que c'est continu, mais il y a quelque chose qui manque. Et ça, on le sent. Donc, on sait quand on... Donc, quand je suis en contact avec un être de lumière ou un être de la nature, parce que certains sont forcément capables de le faire, eh bien, quand je sens qu'ils ne sont pas complètement disponibles, j'écoute la conversation. Hein, je leur rends service, j'écoute la conversation. Tout simplement. C'est-à-dire, je ne vais pas tailler une bavette avec eux pendant une heure. Hein, c'est bon, ok, c'est bon, ils sont occupés, on reviendra plus tard. Voilà. Et parce que, étant donné qu'ils sont, c'est-à-dire, mais à notre service, puisque c'est nous les joueurs, c'est nous les créateurs incarnés, donc ils sont à notre service. Donc c'est pour ça que quand ils nous répondent, c'est parce que c'est prioritaire. C'est un peu comme si nous, quand on les appelle, c'est un téléphone rouge qui se décroche. Donc ils décrochent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément libres et avec toute leur attention. Donc, quand je sens que j'ai pas toute leur attention, ben, je leur dis, écoute, ok, on se recontacte, et paf, on ferme la conversation, et je leur rends service comme ça, parce que ça veut dire qu'ils ont des marrons sur le feu, et qu'ils savent qu'il faut qu'ils répondent, mais en même temps, ça les embête. Voilà. Mais ils peuvent pas vous dire que ça les embête. Sauf si vous êtes vraiment copains avec. Voilà. Alors, l'autre question, toujours 2000, est-ce qu'on biloque avec ses vêtements ou autre objet? Alors là, j'ai répondu, c'est-à-dire que non, on s'en va pas avec son sac à main. Non, hein, ça n'a rien à voir, ce n'est pas un transport physique, matériel. Je veux dire, vous n'allez pas embarquer les bagouses et tout, quoi. Non, mais vous pouvez donner l'illusion que vous partez avec, mais vous n'avez rien besoin. En fait. Tout est déjà... là. Alors forcément, vous allez projeter, si vous êtes en tenue de pingouin, bah forcément, quand vous allez vous projeter, vous apparaîtrez en tenue de pingouin. Et je pense que quand même, il y a des êtres de lumière quand même suffisamment avancés sur le chemin pour être en tenue parade d'un côté et puis en slip de bain de l'autre. Mais bon, ça, c'est qu'une histoire de maîtrise. Comment va-t-on là où on n'est jamais allé? Eh bien, s'il y a quelqu'un qui te prend la main, tu pourras y aller, même si tu n'y as jamais été. Donc, la bilocation, effectivement, physiquement, parce que c'est encore une question très, très terre-à-terre, dans la réalité, c'est en conscience que vous y allez. Et donc, si vous voulez apparaître en conscience, par exemple, à un être de lumière, eh bien, si il se trouve sur un vaisseau galactique, vous pouvez très bien vous transporter sur le vaisseau galactique, puisqu'il est dans le vaisseau galactique. Donc, en vous présentant devant lui, vous allez vous retrouver dans le vaisseau. Et même, vous n'avez pas besoin de savoir où se situe le vaisseau, quelles sont ses coordonnées, ses machins, ses mouvements, rien. Ça n'a rien à voir. Hein, donc, il ne faut pas faire la confusion entre l'aspect matériel et l'aspect vibratoire. La vibration, elle va partout. Il y a nos limites. Hein, voilà. Alors, la bilocation peut-elle être inconsciente? Alors, la bilocation peut être inconsciente dans le sens qu'à chaque fois que tu rêves, c'est inconscient. Mais t'es bien ailleurs. C'est une autre partie de toi qui joue. Donc, d'une certaine manière, il y a des bilocations inconscientes. C'est-à-dire que ça nous arrive, c'est-à-dire que c'est comme, quelquefois, vous avez un autre personnage que vous-même qui est en train d'interagir avec vous, et vous n'avez pas l'impression que c'est une bilocation. Or, en fait, si on veut là aussi pousser le bouchon plus loin, dites-vous bien que toutes vos vies antérieures ne sont pas antérieures du tout, elles se déroulent en même temps que maintenant que je vous parle. Donc, c'est de la bilocation, de la trilocation, de la quadrilocation, un mode de transport multidimensionnel. Donc, une question de bébé. Les crânes de cristal peuvent-ils réparer la grille cristalline? Eh bien, non. Ils ne peuvent pas réparer la grille cristalline, mais par contre, ils peuvent vous réparer. Ça, c'est intéressant. Hein, c'est une autre fonction des crânes de cristal. C'est-à-dire que les esprits cristallins voyage sur la grille cristalline au même titre qu'une information voyage dans un câble Internet. Donc, quand vous verrez l'information circuler sur un câble Internet, réparer les câbles qui se débranchent ou les câbles qui sont coupés, faudra me le dire, parce que là, je serais intéressé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les esprits cristallins ne peuvent pas ne sont pas, on va dire, habilités, hein, puisqu'ils n'ont pas cette fonction d'abord. Ils ont une fonction de gérer l'information. Donc on peut dire, d'une certaine manière, ce sont les serveurs, ce sont ceux qui servent l'information et qui vont chercher l'information. Hein, donc c'est un équivalent Internet, mais ils ne peuvent pas, comment dire, modifier les supports. Et ils sont pas là pour ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais un crâne de cristal, il prend pas ses jambes pour aller voir à côté. Hein. Donc, ils sont complètement, coincés, on va dire, au niveau de la matière. Mais par contre, ils ont des grosses capacités d'enregistrement, des grosses capacités de traitement. Par contre, ils peuvent, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ils peuvent directement modifier, réparer vos tuyaux à vous, êtres humains. Hein, donc c'est ça aussi notre fonction d'avoir un crâne de cristal, c'est que quand il est à côté de vous, c'est bien, quand il est sur vous, c'est mieux. Parce que comme plus ils sont proches de vous, hein, c'est-à-dire au niveau de la peau, s'ils sont en contact direct avec la peau, alors à ce moment-là, ils peuvent, comment dire, réparer votre véhicule. Donc dans un premier temps, ça répare surtout, on va dire, le double tétraèdre, mais ensuite ça peut aller bosser sur le dodécaèdre et ensuite l'icosaèdre. Donc ils sont de super techniciens à ce niveau-là. Mais ils ne peuvent pas modifier la grille cristalline de moment Ventia Gaia et plus. Hein? Donc ils ont des capacités limitées, mais qui sont très largement suffisantes pour pouvoir recabler un individu. Donc avoir un crâne de cristal, c'est pas seulement discuter, parce que les gens disent « Ah, bon, moi, j'ai un crâne éthérique. » Très bien, formidable. Mais c'est pas votre crâne éthérique qui va vous recabler. Hein? Et donc, généralement, pour les gens qui ont un crâne de cristal, eh bien, je parle de cristal de roche parce que les autres sont des thérapeutiques et vous ne verrez pas les modifications chez eux. Mais par contre, plus l'esprit cristallin sera en contact avec vous et réciproquement, et plus en fait vous allez voir le crâne de cristal se modifier. C'est-à-dire que à sa surface apparaîtra certains trous, d'autres se boucheront, il y aura même des fois des espèces de protubérances qui viendront. Il y a aussi, eh bien, des espèces de fissures, de failles, mais bon, c'est pas des fissures. Vous voyez qu'il y a, avant, par exemple, si vous aviez une partie complètement transparente, eh bien, vous voyez qu'il y a une espèce de miroir qui se met à l'intérieur. C'est une faille à l'intérieur. Et c'est eux, c'est-à-dire, ils sont en train de clusteriser. C'est-à-dire, ils sont en train de faire des cloisons pour pouvoir mémoriser. Et la seconde chose, c'est que ces grandes failles que l'on voit, dans les trucs, hein, dans le crâne de cristal, correspondent en fait à votre morphologie et à comment vous êtes bâti intérieurement. C'est-à-dire que l'esprit cristallin modifie le crâne de cristal pour pouvoir rentrer au maximum en résonance avec votre corps cristallin à vous. Et donc plus le niveau d'intégration est grand, et plus vous allez voir que d'abord le crâne de cristal lui-même va commencer à s'éclaircir. Généralement, il s'éclaircit. Hein, c'est-à-dire qu'il peut devenir, mais alors comme si c'est aussi transparent qu'un morceau de verre, hein, alors qu'il était complètement sombre au départ. Hein, sombre parce qu'il y a certains cristaux de roche qui sont quand même pas, on va dire, très cristallins dans le sens limpide, hein, très transparent. Donc quand vous prenez par exemple un cristal qui vient du Brésil, ben ça vire vers le rose, c'est rose brun, alors que le cristal qui vient du Népal et du Tibet est très très, lui par contre, très transparent. Donc on voit qu'il y a des qualités de cristal différents. Par exemple, moi j'ai un tout petit crâne suisse, pas suisse, russe, hein, qui vient de Russie, et le cristal de roche est laiteux. Eh bien, c'est pas difficile, si vous rentrez véritablement en résonance avec votre crâne de cristal, eh bien, ce crâne va s'éclaircir. Donc ça veut dire que, grosso modo, en vous, ça s'éclaircit aussi. Ensuite, toutes les failles que vous allez voir qui viennent à l'intérieur, eh bien, c'est qu'ils commencent à aménager. Ils commencent, comme dire l'autre, à déménager les meubles dans le crâne de cristal lui-même. Et pour des effets de résonance, il va, bien sûr, modifier son crâne en fonction du vôtre. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ensuite, quand il devient relativement très clair, vous allez voir des failles apparaître encore de plus en plus, puis après des micro-failles, petit à petit ça va se morceler de plus en plus, intérieurement, hein, le crâne est toujours un, mais intérieurement vous allez voir qu'il y a du mouvement. Hein. Donc pour les gens qui croient qu'un caillou c'est un caillou et ça ne bouge pas, eh bien avec un crâne de cristal, ils vont se rendre compte que c'est vivant. Ça, c'est quelque chose de très important. vous allez voir, surtout dans les débuts, vous allez voir que votre crâne se modifie beaucoup. Hein. Donc vous allez voir plein de failles apparaître, plein de trucs, vous dites, mais il n'avait pas ça avant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Vous verrez aussi apparaître ce qu'on appelle des micro-arc-en-ciel dans ces différentes fragmentations, parce qu'en fait, ça veut dire que dans ces endroits-là, eh bien, vous avez dégagé le spectre. Hein, c'est-à-dire que le cristal devient tellement clair qu'il peut jouer sur toute la bande de fréquence. Et donc, vous voyez de plus en plus de micro-arc-en-ciel apparaître. Hein. Donc, en fait, en résumé, quand vous avez un crâne de cristal, eh bien, cela vous permet, quand vous le regardez, de savoir qu'est-ce qui se passe en vous et quel est l'état d'avancement de votre nettoyage et aussi de votre recablage cristallin. Mais c'est un véritable miroir. Mais les crânes de cristal ne peuvent pas réparer la grille cristalline. Il faut savoir que les électriciens de la grille cristalline, c'est tout simplement les dragons. Voilà. Donc, les dragons sont là, effectivement, pour réparer. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, déplacer un vortex, bon, si c'est d'un mètre ou deux, ça dérangera pas, et si vous savez faire, eh bien, si par contre, si vous voulez le déplacer, on ne serait-ce que de 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, alors à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir le faire sans l'aide des dragons. Parce que les dragons sont obligés, à ce moment-là, de modifier les autres grilles, de telle manière que le vortex puisse se déplacer. Parce que le vortex, c'est pas comme un arbre qu'on déplace. C'est en fait un croisement de jonctions énergétiques, on va dire. Donc il faut déplacer, c'est comme si vous voulez déplacer un vortex, c'est comme si vous preniez un tissu élastique et vous alliez tirer sur le tissu élastique. Donc il faut que toutes les fibres suivent. Et ça, pour l'instant, aucun humain n'est capable de faire ça, parce que d'abord, il est incapable de voir les différentes grilles, toutes les grilles, et qu'est-ce qu'il faut modifier sans que cela interfère sur le reste. Donc, ce sont les dragons qui sont en charge, on va dire, de la réparation de la grille cristalline, mais aussi de l'alimentation électrique. Car s'il y a une coupure de courant, votre Internet, il bouge plus. Hein. Donc, il faut bien des fils et du courant. Donc, ce sont les dragons qui s'occupent de tout ça. Voilà, 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 voilà. Alors, une autre question de Raymond. Si la grille cristalline enregistre la totalité de ce qui se passe dans le jeu, y a-t-il interaction avec ce que l'on nomme égrégore? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que la grille cristalline qui enregistre. En fait, il y a des espèces de systèmes parallèles. Alors, il y en a plusieurs systèmes parallèles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grille cristalline enregistre localement. C'est-à-dire que si, par exemple, à un endroit donné, il y a eu, on va dire, une grosse bataille, il y a eu beaucoup de morts, eh bien, à cet endroit, la grille cristalline va être très chargée. Hein. Donc, c'est pour ça que, à certains endroits, quand il y a un peu trop d'involution, la grille cristalline se fait bouffer littéralement. C'est comme si vous mettiez de l'acide sur un réseau. C'est sûr que les isolants et tout ça, ils vont fondre, et puis ça va faire des courjus, puis ça va claquer. Donc c'est comme ça que la grille cristalline a été bouffée un petit peu partout, et vous pouvez imaginer que dans les villes où là où il y a des concentrations importantes d'êtres humains, eh bien la grille cristalline est généralement pas inexistante, mais très très amochée, et généralement ça va très en profondeur aussi. Alors, j'en étais dans toujours la question de Raymond, si la grille cristalline enregistre la totalité de ce qui se passe dans le jeu, y a-t-il interaction avec ce que l'on nomme égrégore? Donc, pour reprendre cette question, donc là je viens de dire que il y a plusieurs enregistreurs. Il y a un autre enregistreur qui s'appelle ce qu'on appelle les annales akashiques, c'est-à-dire que c'est un enregistreur qui va enregistrer la totalité de tout ce qui se passe, mais d'une manière, on va dire, linéaire, séquentielle. Et donc là, s'il y a un champ de bataille quelque part, il va enregistrer le champ de bataille, mais cet enregistrement ne se restera pas, on va dire, enfin, ça s'enregistre sur la bande, c'est à distance. Hein, alors que la grille cristalline, localement, toutes les émotions qui ont été, on va dire, dégagées à cet endroit-là, vont rester à cet endroit-là. Ce qui n'est pas le cas de, par exemple, les annales akashiques. Dans les annales akashiques, ça enregistre tout, mais ça n'est pas pollué, entre guillemets, par toutes les affaires émotionnelles et tout ce qui a pu s'y passer. C'est un enregistrement, comment dire, linéaire, à distance. Il y a aussi un troisième type d'enregistrement, si ma mémoire est bonne, c'est la grille magnétique. Donc là, on parlait de la grille cristalline, la grille magnétique aussi enregistre. Et donc la grille magnétique est, comme vous le savez, en relation avec Maman et Léa. Donc Maman et Léa, c'est exactement tout ce qui se passe, où et comment et pourquoi. Et donc elle ressent en direct tout ce qui se passe. Voilà, donc quand vous lui envoyez une émotion positive, quand vous lui envoyez quelque chose de positif, elle le sait instantanément. Quand c'est négatif, elle le sait aussi instantanément. Mais elle n'a pas forcément une notion de lieu. C'est quoi votre système nerveux, quoi. Ça fait quelque part, et puis ensuite il y a donc là ça vient de recommencer. Voilà, alors est-ce qu'il y a une interaction avec les égrégores? Donc la grille cristalline n'a pas, elle, une interaction directe. C'est Internet. Donc elle n'a pas d'interaction directe avec ce qui se passe au niveau des égrégores. Par contre, oui, tout ce qui se passe au niveau des égrégores interagit avec, cette fois-ci, la grille magnétique. Et donc, la maman sait très bien ce qui se passe. Alors, est-ce que la grille cristalline est polluée, et si oui, peut-on la nettoyer? Déjà, comme dans tout système comme Internet, nettoyer, ça, c'est très difficile. D'abord, nous ne pouvons pas y aller, puisque c'est du domaine des esprits cristallins, déjà. Et deuxièmement, pour la nettoyer, il faut déjà arrêter de la polluer. Et ça, c'est pas tout à fait notre sort. Au niveau humain, je crois qu'on ne peut rien faire, tout simplement. Une question de Bruno. Si autour de chaque cœur humain se trouve un champ d'énergie mesurable, si le cœur a une interaction sur l'ADN, car en présence d'émotions positives, l'ADN se dilate, se détend, et en présence d'émotions négatives, il se contracte. Si donc les sentiments changent l'ADN humain, alors là, je corrige tout de suite. Les sentiments ne changent pas l'ADN humain. L'ADN humain n'est pas changeable véritablement tant que tel, puisque l'ADN humain est tout simplement un programme. Et ce programme, vous n'allez pas pouvoir le modifier. Vous allez pouvoir accéder à des morceaux du programme, mais vous n'allez pas pouvoir le modifier, parce que, dans une certaine mesure, parce que si ce sont vos sentiments qui modifiaient cet ARN, aujourd'hui, vous n'auriez plus d'ADN ou d'ARN. Vous seriez en bouillie totale. Donc, ça, c'est déjà une erreur. Par contre, vous pouvez, bien sûr, localement changer un bout de programme. Or, quand on dit changer un bout de programme, c'est par une certaine intention, et pas par un sentiment. C'est-à-dire que vous mettez votre verbe créateur en marche. Et le verbe créateur n'a rien à voir avec une émotion ou un sentiment. L'émotion ou le sentiment, c'est une énergie. Une intention, c'est, une écriture. Il ne faut pas confondre l'énergie et l'écriture. Alors bien sûr, si vous mettez beaucoup d'énergie dans l'écriture, alors là, oui, ça va déménager. Mais si vous mettez que de l'énergie, il n'y aura pas d'écriture. Donc, sachez bien que si vous regardez dans votre vie, depuis que vous êtes né, combien de sentiments et d'émotions vous avez eu, imaginez combien ils ont été négatifs. Aujourd'hui, que serait votre ADN? Donc, il n'y a pas de possibilité à ça. Le sentiment, l'émotion ne modifie pas l'ADN. Il va simplement permettre l'accès peut-être à certaines zones de cet ADN, et encore je dis pas c'est l'ADN, il y aura des accès à certaines zones de mémoire. Or, votre mémoire en quelque sorte n'est pas forcément votre ADN. Notre mémoire n'est pas située dans l'ADN. Ça, c'est encore, excusez-moi, une couillonnade des scientifiques. Donc, vos mémoires se trouvent dans vos différents corps. Donc vous savez que vous avez un corps physique, un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Donc, quand vous avez des émotions, eh bien, c'est bien sûr votre corps émotionnel qui enregistre ces émotions. Donc forcément, si vous avez un événement XYZ qui se renouvelle de nouveau, eh bien le mental va réaccéder parce qu'il dit « Ah ça je connais, quand papa me fout une bof, je vois des étoiles et il est évident qu'il va pas aimer. » Et donc dès que papa va lever la main, tout de suite il va vous rebrancher là-dessus, vous aurez les jetons de votre vie parce que ça va vous faire remonter toutes les émotions que vous avez eues lors des bofs précédentes. Et donc là, ça n'a rien à faire avec votre ADN. Donc il ne faut surtout pas mélanger tout, parce que si vous mélangez tout ce genre de choses, imaginez d'abord que nous ne serions plus des humanoïdes en termes de forme. Hein? Donc ça c'est important à le comprendre. Et donc quand tu parles ensuite, Bruno, tu dis « si donc les sentiments changent l'ADN humain, donc le système immunitaire, le taux d'hormones, etc., donc les émotions dégagées par le cœur changent l'ADN. » Bon, tout ça, c'est faux. D'accord ? Ton système immunitaire ne dépend pas de ton ADN. Il dépend de tes chakras. Chaque chakra est relié à une glande. Et c'est ces glandes qui vont décréter ce qui se passe. Donc quand nous regardons l'ensemble des glandes qui gèrent, on va dire la totalité, on va dire pour l'instant, on va dire que ton septième chakra, hein, qui est relié à une glande, alors je sais jamais si c'est l'hypophyse ou la pituitaire, mais enfin bon, je confonds toujours, mais ce qu'il y a, c'est que c'est celle-là qui décide de comment les autres vont fonctionner. Donc, en fonction de ce qui se passe en bas, comme on dirait dans les étages, le chef là-haut, il décide. Donc, s'il voit que il y en a un qui est en état de stress, parce que tout simplement il y en a un qui essaye de vous bouffer, eh bien il va ordonner la libération, donc il va via une commande, hein, alors c'est une commande chimique, eh bien il va envoyer aux autres chakras la commande spécifique pour que d'un seul coup vous ayez une énergie surhumaine pour pouvoir courir vite, par exemple, ou simplement que vous ayez une peur monstrueuse qui fait que vous allez bouger votre cul et vous réveiller, mais ça n'a rien à voir avec l'ARN et l'ADN. Donc là, pareil, encore confusion. D'accord ? Donc quand on me dit, comme tu dis Bruno, donc l'émotion change la matière, si l'émotion changeait la matière, on serait mal barré. Donc la matière, elle, est indestructible en tant que telle. Même quand nous jouons avec l'énergie nucléaire, nous ne faisons que casser des choses. Et là, on y va vraiment avec la force brute, comme si on prend un marteau pour casser un vase. On va changer la forme, mais tu ne supprimeras zéro atome. C'est indestructible. Donc, l'émotion ne change pas la matière. Par contre, l'intention, en passant par le verbe créateur, oui. Parce qu'on verra que le verbe créateur, c'est mettre en œuvre ta capacité de programmation et de projection. Or, il faut savoir que tout ce qui est autour de nous est une projection. Donc, si tu es capable de jouer directement sur le projecteur, c'est-à-dire le film du projecteur, ce que tu verras à l'écran changera. Mais ça reste un virtuel illusoire. Donc cette matière que tu vois n'est là que parce qu'il y a la grille atomique. Si la grille atomique disparaît, la matière que tu vois n'existe plus. Tu ne pourras plus la voir. C'est comme si on coupait directement le rayon lumineux du projecteur. Tu ne vois plus rien à l'écran. C'est fini. Donc, il y a, malheureusement, ça je le constate, beaucoup de confusion, parce qu'il y a des rapprochements entre des raisonnements de 3D, hein, de raisonnements de matière, et ça c'est tout à fait normal, avec des raisonnements des autres dimensions. C'est comme la physique. Si vous êtes, vous regardez la physique basique, classique, dans le sens matériel du terme, qui dit si un objet tourne autour, par exemple si la Lune tourne autour de la Terre, bah, arrive un moment, la Lune ne va plus avoir assez d'énergie et forcément elle va se rapprocher pour aller venir s'écraser sur la Terre. Alors le problème c'est que ça n'arrive pas, donc ce qui veut dire que c'est une autre physique. Donc il y a des physiques différentes. Alors quand on parle de la physique classique, on dit de la physique newtonienne, enfin bref. Et vous avez la physique quantique. Il y a un siècle, la physique quantique, ils découvraient. Hein. D'accord ? Donc, on verra qu'il y a une grosse différence dès qu'on parle de physique quantique. La physique quantique, c'est simplement, on sort de la dimension 3D, 4D. Et on va dans une autre dimension. Donc, ce sont d'autres règles. Donc, il ne faut pas mélanger toutes les règles. parce que sinon, bah, ça ne roule pas. Donc, notre cœur crée des ondes électromagnétiques. C'est nouveau, pour moi, dans notre corps, qui ne se limite pas à notre corps, mais agit sur le monde qui nous entoure. Alors, là, c'est pareil. Dis-toi bien que nous sommes dans un monde électromagnétique. Donc, nous sommes faits aussi de matière électromagnétique. Un homme, c'est électro. Puis, comme il est androgyne, bah, il y a du magnétique. Les dames, bah, c'est du magnétique, avec, bah, il faut quand même du masculin. Donc, elles ont de l'électrique aussi. Donc, on voit qu'effectivement, si tu as un sentiment, une émotion, tu vas modifier ce qui est autour de toi. Parce que c'est une énergie. On est d'accord. Il faut considérer l'émotion comme le feu. Pas le feu. La chaleur, excusez-moi pour être plus précis. Le mental, c'est du feu. L'émotion, c'est de la chaleur. Donc, si vous voulez de la chaleur, il n'y a pas forcément du feu. C'est-à-dire que quand vous mettez une casserole, on va dire, face au soleil, ben, l'eau qui est dedans, elle chauffera d'une manière ou d'une autre. Donc, elle reçoit bien de la chaleur. Mais il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de feu. Par contre, le mental, c'est quasiment un chalumeau. Donc, c'est pour ça que plus on avance dans notre maîtrise de ce que l'on est, dans nos véhicules de manifestation, eh bien, plus on va découvrir c'est quoi l'usage du chalumeau. C'est pour ça qu'on dit, s'il vous plaît, si vous pouvez maîtriser vos pensées, ça serait pas mal. Parce que si vous ne maîtrisez pas vos pensées, vous allez forcément créer de la chaleur, parce que vous allez faire cramer des tas de choses à côté. Donc, si vous ne maîtrisez pas votre corps mental, enfin, vos pensées, vous n'arriverez pas à maîtriser votre corps émotionnel, c'est-à-dire la chaleur. Donc, grosso modo, si vous montez un peu en puissance, vous allez faire tout cramer, quoi. Parce que si tu sers la paluche à l'autre et pétes un chalumeau à la place de la main, c'est sûr que l'autre, il va faire aïe. Alors, bien sûr, il y aura de la chaleur. Hein. Il va sortir de la chaleur, c'est évident. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour cela que le climat change par nos turbulences émotionnelles? Oui. Et les méditations mondiales pour la paix apaisent le tout. Alors, la problématique, là, c'est le même style. C'est-à-dire qu'on a une problématique de compréhension. Quand on dit méditation mondiale pour la paix, nous savons tous que quand nous sommes dans un raisonnement 3D, voire 4D, si tu dis « je veux la paix », c'est qu'inconsciemment, tu dis « je veux pas la guerre ». Donc, si tu dis ça, qu'est-ce que tu envoies véritablement? Donc, quand on est en 3D, eh bien, automatiquement, on exprime dans notre cœur qu'on ne veut pas la guerre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On renforce la guerre. Mentalement, tu dis non, je prie pour la paix, et tu renforces la guerre. C'est pour ça que beaucoup de gens qui prient, bah, ils se prennent des bottes, ils ne comprennent pas, ils disent vraiment, bon Dieu, il est méchant. Hein. D'accord? Si vous êtes encadré, vous comprenez que c'est un état d'être. Si tu veux la paix, il faut que tu sois en paix. Donc tu peux toujours faire des méditations mondiales en disant pour la paix. Mais il ne faut pas que tu abordes le sujet en disant parce que je ne veux plus la guerre. Mais ça, c'est difficile. Donc les gens qui sont encadrés et qui disent je pose mon cul, je me détends, je mets en onde, theta, delta, enfin ce que tu veux, ça, j'ai jamais compris tout seul, pas compris. Je comprends le principe, mais bon, les mots, je m'en fous. Quelque part, si tu es en paix, et qu'un nombre suffisamment de gens se mettent en paix, eh ben oui, ça va apporter la paix mondiale. Mais il n'y a pas de volonté de paix. Il y a la paix. C'est ça la différence. Donc, faire des méditations mondiales pour avoir la paix est en soi un contresens. Poser son cul et être en paix, sans demander quoi que ce soit, amènera la paix. Et donc, la meilleure façon d'y arriver, d'amener la paix sur cette terre, c'est tout simplement que tout le monde soit en paix. Alors, on peut aller un peu même plus loin. Pourquoi dire à telle heure, il faut qu'on pose notre cul pour pouvoir faire une méditation sur la paix, alors que si tu es en paix 24 heures sur 24, si tu es en paix à chaque fois que tu es, enfin tu es, tu es en paix, eh ben tu médites en permanence. Donc, j'espère que, Bruno, tu comprends la différence entre se dire « il faut faire à telle heure, parce que moi, je veux la paix pour la guerre, et là, ça ne marchera pas terrible », ou soit tu dis « je suis en paix en permanence, et je ne pense même pas à la guerre, parce que de toute façon, je suis en paix ». Et donc, dans ce cas-là, tu apportes véritablement la paix. Alors, comme tu le mets ensuite, ces méditations sont des égrégores positifs, non? Alors, bah là, c'est pareil. Donc, effectivement, quand tu es en version 3D, c'est un égrégore. Il semble positif. Il semble positif, mais ça reste un égrégore. C'est comme quelqu'un qui dit, voilà, moi, je fume, mais c'est Boufiltre, hein, et puis c'est du tabac bio. D'accord. Et le résultat, c'est qu'il fume quand même.